Le retour.
Méfiez-vous.
De Radio X.
C'est un conseil. Un conseil d'amis que je vous donne.
En vacances.
Radio X.
Merci de choisir le retour de Radio X pour le retour à la maison. Peut-être que vous êtes encore en vacances, vous nous écoutez sur le bord de la piscine, au camping, dans votre VR, votre chalet, peu importe.
Au chaud.
Au chaud, ouais, il fait 30 degrés.
C'est chaud.
On est bien, Louis.
C'est chaud.
C'est fun.
Chaud.
C'est trop chaud pour toi?
Ah, c'est chaud.
Ouais. Ben non, 30 degrés, c'est bien correct.
Pas d'air clim, c'est chaud.
Pour le nombre de fois où on a de si belles journées ici au Québec, il faut en profiter, les amis.
Oui.
Je vous ramène un peu dans le temps. Moi, je suis dans la quarantaine, plus vers la cinquantaine que la quarantaine. Et quand j'allais au primaire, ma soeur et moi, on allait dîner à la maison. C'était pas tant loin, l'autobus allait nous porter là, à 11h30. Puis là, ma mère, quand elle était pas là, quand on a eu l'âge de pouvoir dîner tout seul, là, elle nous préparait un lunch dans le frigo, on mettait ça au micro-ondes. Puis qu'est-ce qu'on faisait le midi, à midi pile, jusqu'à midi 30? Tout le monde faisait ça. On regardait les pierres à feu à télé.
Dan Gravel, ce matin, m'a raconté exactement la même histoire.
Je te le dis, c'était...
Tout le monde vivait parce ça. Que...
Mais c'était notre quotidien. Tous les jours, on écoutait les pierres à feu à midi.
C'était immanquable. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, à prise 2, si je ne me trompe pas, on les diffuse encore à midi. Ou pas loin d'eux. Mais c'était un classique. Puis des fois, c'était les mêmes épisodes qui revenaient. C'était pas grave. On le réécoutait quand même. Dino, Saint-Granit, Fred, Arthur, Delima, Bertha, les Bisons des Prairies. Toi, Louis, as-tu connu ça, les pierres à feu?
Un petit peu, là, genre que mon père me montrait ça, là, ou puis genre, mais pas...
Pas plus que ça?
Non, je suis un petit peu trop jeune pour avoir suivi là, assidûment les pierres à feu.
Tu sais, on regardait les pierres à feu sans trop savoir quelle est l'histoire derrière cette série québécoise, entre guillemets, culte. Parce qu'à la base, c'est une série américaine, mais qui est devenue tellement inculquée au Québec qu'on a l'impression que ça a été bâti chez nous.
Ils ont fait un film même, à un moment donné.
Ben oui, dans les années 90, je pense en 94, un film d'Hollywood là, avec des acteurs connus, les noms méchants.
Mais c'était traduit en québécois.
Ah, c'est traduit en québécois.
Fred Caillou
parlait
québécois.
Les pierres à feu avaient réussi ça, c'est-à-dire de faire une traduction qui était typiquement de chez nous. Bref, on va en parler parce que vous le connaissez. C'est un auteur, un illustrateur, un créateur de BD. Il s'appelle Tristan Demers et lui a décidé de nous offrir un super beau livre que j'ai sous la main qui s'appelle « Un dîner avec les pierres à feu » qui est toute l'histoire derrière cette adaptation québécoise. Tristan Demers, merci d'être avec nous dans le retour avec nous aujourd'hui.
Ça fait plaisir. Salut tout le monde.
Ce livre-là, il est tout chaud, il sort aujourd'hui, là.
Aujourd'hui, en librairie partout, il y a un bon buzz. Je pense que ça nous fait du bien. C'est un livre d'été.
Oui.
En même temps, on apprend les coulisses derrière la version québécoise. Hein, parce que,
oui,
tu le disais, c'était plus qu'une simple traduction. C'était une adaptation avec des référents culturels de l'époque. Et puis, c'est une époque aussi où, oui, il n'y avait pas Internet et tout ça. Ce qui fait qu'on a tous les mêmes souvenirs parce qu'il y avait trois chaînes dont deux qui passaient les nouvelles à cette heure-là. Ouais. Il n'y avait pas le choix. Le Québec au complet francophone regardait les pierres à feu de midi. Ça a commencé en 71 en soirée à l'époque sur diffusé à Radio-Canada. Donc, ça a démarré au début des années 70 et ça joue encore, évidemment. Ça fait 60 ans que ça joue.
Ouais.
Ça joue, c'est quand même fou.
T'sais. Nous, on l'a connu le midi parce que, bon, c'était diffusé à cette heure-là. Et j'ai parcouru le livre. Tu parles justement des années 70 quand on a adapté ça ici au Québec. Quand c'est arrivé en soirée, le créneau horaire, est-ce qu'on visait les jeunes à ce moment-là? Ou on visait...
Non, parce que c'est un sitcom pour adultes au départ. Ouais. D'ailleurs, aux États-Unis, c'était les cigarettes Winston qui étaient le commanditaire officiel. Si vous allez sur YouTube, okay, vous allez retrouver des pubs avec Fred et Delima qui s'en allument une bonne. Là, on est complètement ailleurs. Puis la façon dont c'est fait, c'est un sitcom en trois actes. C'est un peu comme nous, on avait créé Basile, Saint-Faurier, moi et l'autre. C'est-à-dire qu'au début, t'as une espèce de quiproquo qui crée la discorde. Après, t'as une pause, tu reviens de la pause, tout le monde est embourbé dans l'histoire. Une autre pause, puis à la fin, on close tout ça avec une blagounette finale. Bon, fait que c'est le principe de rire en canne comme si on était au théâtre. Puis là, Radio-Canada, à l'époque, il y avait quelque chose d'audacieux là-dedans, à sortir du perlé un peu à la française pour aller chercher des comédiens liés au cabaret. Donc, qu'on connaissait déjà, mais dans des choses plus populaires, puis de faire parler Fred et ses amis comme on parlait nous autres dans la rue, dans la vraie vie. Mais ça, ça plaisait pas à tout le monde, là.
Non,
il y a bien
ça.
Du monde qui ont dit, selon la classe sociale à laquelle on appartenait, il y a bien du monde qui était outré du fait qu'on parle comme des charrues. Je le cite parce que j'ai lu de vieux articles d'intellectuels fâchés. Hein? On parle comme des charrues à la télévision publique. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oui.
Voilà. Les comédiens s'amusaient comme des fous sur le plateau, évidemment. T'sais, il y avait beaucoup de liberté, je te dirais. D'ailleurs, il y a une entrevue dans le livre avec Bertha Laroche.
Oui.
C'est la comédienne Monique Miller, elle a 92 ans, elle a bien voulu m'accorder une belle entrevue, fait que c'est fun de jaser avec la dernière qui est vivante. Tu sais.
C'est vraiment intéressant parce qu'on apprend aussi comment ces acteurs-là, comme Paul Berval, ont décroché ces rôles-là aussi, qui ont été vraiment marquants dans leur carrière. C'est devenu...
Oui, ça les a suivis.
Ben oui.
Tout le temps. Mais ils n'ont pas été payés plus cher, hein, dans le sens où tout le monde n'a eu qu'un seul cachet de 75 $, je crois, par épisode au départ, point final. Parce que le principe de reprise n'était pas en... C'était dans la tête de personne. Mm-hmm. Il n'y avait pas de VHS, il n'y avait pas... À l'époque... Le principe de dire « je vais décider de regarder moi-même quelque chose », ça n'existait pas. Tu regardais quand ça passait à la TV à une heure précise. Fait qu'ils se sont dit « écoute, on paye un épisode OP, ils vont le passer deux fois ». Ils ont dit « correct ». Avoir su, on se comprend dessus, que la convention collective de l'Union des artistes à l'époque ne prévoyait même pas le principe d'avoir de nouveaux cachets, d'être repayé. Quand tu tombes ces filles de calibre, Roy Dupuis, il reçoit un chèque. Là. C'est normal.
Oui.
Parce que ça passe à la télé, il y a des commanditaires, ça rapporte de l'argent et de la cote d'écoute. Il a droit à son petit chèque à quelque part. C'est toujours bien lui qui joue dans le show. Tu sais. Mais pas à l'époque des pierres à feu. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ça passe depuis si longtemps. Les gens font oui, ils me disent oui, mais c'est passé. Bon, oui, mais ça ne coûte pas une maudite scène à personne de l'effort.
Il n'y a pas de redevance.
Ben non, c'est ça,
pas de comédiens à payer. Ben oui, ils n'ont pas de comédiens à repayer.
Même pas les doubleurs.
Puis à TQS, dans les années 80, c'est le show le plus rentable avec Bleu Nuit, qui était l'émission de soirée avec les films de fesses.
C'est fou.
On a tous regardé à 13 ans en essayant de capter quelque chose.
Ouais.
mais on regardait tous les pierres à feu étant jeune. Tu sais, quand Louis dit l'histoire que tu as racontée, c'est la même que notre collègue Dan. C'était quoi ton lien avec les pierres à feu, Tristan Demers? Parce que pour en faire un livre, pour faire une histoire, c'est un peu la même chose, oui?
Ben, c'est la même chose, mais je te dirais même que pour avoir regardé les 166 épisodes en ligne avec mon fichier Excel dans mon ordi, deux épisodes par matin, je me rends compte que je ne voyais pas ou percevais pas de la même manière. Maintenant, il y a des choses qui ont mal vie. Tu sais, des jokes de femmes au volant, tout le temps, où les femmes. Tu sais, saison 2, il y a même un épisode où je pense que c'est Fred qui dit à Arthur, si ta femme t'énerve, elle se dit une bague, ça va la calmer.
Mais on est dans une autre époque.
Bon, c'est une autre époque. Fait qu'on en rit, que ce qu'on fasse. Tu sais, je veux dire, bon. Mais ça, on le voyait pas, toi puis moi, quand on regardait ça.
Non.
Tu sais, il y avait pas ce qu'on les voyait. On les trouvait un peu colons, puis on rigolait, puis c'est tout. Il y a des choses qui ont mal vieilli, mais c'était l'époque des premiers, où on était, nous, les premiers enfants de parents divorcés. Des enfants à clé dans le cou, là.
Oui, vraiment.
On est seuls, parce que là, le Québec s'émancipe. Les femmes allaient travailler, arrêtaient de faire des tartes à la maison. L'Église n'était plus là pour leur dire de se reproduire sans bosser. Donc, tu sais, il y a tout ça. Il y a un contexte social de l'époque, sauf qu'il y a un clash. Parce que la série a démarré en 60 aux États-Unis, donc la production a démarré fin 58. Ben, les États-Unis, de la fin des années 50, c'était très conservateur. Puis nous, on arrive dans les années 70, hyper libérés, mouvement nationaliste, on est dans les grands projets de société québécoise. Puis là, on reçoit des scénarios où ils font chambre à part. Il y a quasiment, on parle quasiment de Jésus quand c'est le temps de Noël. D'ailleurs, ça n'a pas de sens, cette affaire-là, parce que ça se passe à l'époque préhistorique.
Oui, c'est
ça. Un sapin de Noël et une caresse, en tout cas. Bon.
Mais c'était alors, ça qui était drôle, tu sais. Je veux dire, il y avait des trucs là-dedans complètement farfelus, mais c'est ce qu'on aimait.
Oui, puis les animaux qui servaient d'appareils électroménagers aussi. Moi, mon préféré, c'est le rasoir, qui est une boîte avec des abeilles dedans. Ça fait
Moi, je me souviens du film qu'on a fait avec le film avec des acteurs, là, pas des dessins
animés.
Avec
John Goodman et Rick Moranis aussi.
Oui, qui jouait Arthur.
Exactement.
Puis l'espèce de robot, voyons pas le robot, mais le l'électroménager qui est le broyeur à déchets, qui est un espèce...
Le broyeur qui était l'espèce de sanglier ou de métro, là.
Ouais.
Ça avait bien marché. Le premier était bien reçu. Le deuxième, c'est pourri.
Ouais.
J'en parle un peu, mais pas tant. Le livre, d'ailleurs, à ce moment-là, c'était plus Paul Berval, mais c'était Yves Corbeil qui faisait la voix. Oui. Parce qu'Yves Corbeil faisait la voix de John Goodman dans les films. Fait qu'ils ont dit, on va prendre le gars qui fait la voix du bon acteur. Ouais. Alors qu'il aurait fallu pour le Québec ajuster, en tout respect pour M. Corbeil, mais ça avait mal réagi, puis il aurait fallu qu'on se préoccupe de qui faisait la voix du personnage et non pas de l'acteur qui l'incarnait. C'est mauvaise décision administrative hollywoodienne. Là, le marché du Québec est pourru, fait que ça a dû passer en haut du radar. Mais c'est toute une... c'est une photographie d'une époque complète. J'avais envie de sortir ce livre-là dans l'été. Je trouve que c'est un livre d'été.
Mais c'est un phénomène culturel incroyable là, quand on y pense. Puis, est-ce que je me trompe ou ici, au Québec, c'est l'un des endroits où on est, où ça a été le plus marquant de tous les pays là, où ça a été... est-ce que c'est au Canada, c'est vraiment ici que ça a été le plus marquant ou ailleurs on voit un phénomène comme ça?
Ben, c'est dans 70 pays. Alors, évidemment, oui. Je suis au courant des codes d'écoute partout, mais on est le seul endroit où le générique, dans le monde, là, on est le seul endroit où le générique a été adapté avec la photo des comédiens. Wow. En espèce de guest star, là, donc annoncé dès le départ, avec Monique Miller, avec Claude Michaud, Denise Proulx et Paul Verval, évidemment. Puis il y avait d'autres mondes là-dedans. Il y avait Béatrice Picard qui vient de nous quitter, qui faisait la voix de Marge Simpson, faisait certains rôles aussi à l'occasion. Il y avait Benoît Marleau, il y avait Serge Turgeon, il y avait Jeannine Suteau. Tous ces gens-là sont décédés, évidemment, parce que le temps passe, c'est la vie, que veux-tu. Mais j'étais bien content d'accrocher Bertha, d'avoir une jasette de trois quarts d'heure avec elle au téléphone. D'ailleurs, ma fille trouvait ça très drôle, parce que l'entrevue était à main libre. C'est qu'elle était dans la cuisine, elle se faisait des ramen, puis elle m'entendait jaser avec Bertha.
Oui. C'est complètement
absurde, parce qu'elle a la même voix.
Mais ce que j'aime beaucoup dans le livre que tu nous proposes, Tristan, c'est que c'est à quel point tu réussis à bien nous expliquer comment ça fait pas combien il y a du Québécois là-dedans, de nous en fait, parce qu'on est le seul endroit où on l'a adapté à ce point-là, avec notre parler joual de rue, de ruelle à nous, en mettant même des icônes comme Willy Lamotte, par exemple, ou Jean-Pierre Coilier dans les scénarios. Oui, c'est ça.
Guy Lafleur, je pense.
J'allais dire, la carrière Miroc, c'est la carrière Miron dans le quartier antique à Montréal, au nord de Montréal. Et M. Miroc, il y avait un vrai M. Miron, c'est Gérald Miron, qui était un des frères Miron dans l'antique. Donc, on a tout adapté comme ça pour avoir un référent. Alors, on parle autant d'Aurore, l'enfant martyr, que de Pierre Marcotte ou Michel Richard, à la limite. Là, je dis vague, mais il faudrait que je retrouve mes notes. Écoute, mais ça, à un moment donné, j'ai pris un break parce que 166 épisodes, je me couchais puis je pensais au Pierre Assis.
Puis y a-t-il un filon, je veux dire, à un moment donné, dans chaque épisode, est-ce que ça suivait un peu ou pas du tout, là?
Non, pas du tout, mais ça veut dire qu'à partir du moment où, par exemple, Agathe arrive, on recule plus, les gens se souviennent pas souvent que Boum Boum a été adopté. Il est arrivé dans un panier.
Oh, ça oui.
Je crois que le panier, c'était même une carapace de tortue à l'envers. Moi, mon épisode, moi, j'ai deux épisodes que j'aime beaucoup. Celui où Delima accouche.
J'ai pas vu ça.
Oui, avec sa robe de maternité, sa bédaine a dit « Fred, je suis prête ». Fait que là, il capote, fait que là, il se trompe, il amène à l'hôpital Dino. D'ailleurs, il fait de la vitesse, la police l'arrête sur l'autoroute, ils disent « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit « Ma femme va accoucher, il dit « Elle a un chien, ta femme. » On est vraiment dans les blagues de cabaret.
Oui.
Il se vire de bord, il revient à la maison, et là, elle est déjà partie avec Arthur. Fait que lui, il repogne son char avec ses pieds, comme d'habitude, puis il s'en va, mais il se trompe, il prend il rentre pas à l'hôpital, à l'hôtel, c'est la porte qui est juste à côté. Fait qu'il rentre dans un hôtel, il se pitche sur le comptoir, puis il dit « Ma femme, elle vient de rentrer ici avec mon meilleur ami. » Le monsieur dit « Écoutez, monsieur, on voit ça tous les jours.
» C'est très bon.
Il y a tout ce... J'aime bien l'épisode aussi où Fred doit organiser le party d'Agathe, il commande un clown, mais il doit aussi organiser le party de la gang des bisons.
Ah oui, puis c'est trompé, je me rappelle.
Il commande des danseuses.
Oui, je me rappelle
donc,
de ça.
Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Il interchange les dossiers. Fait que t'as le clown qui vient faire les animaux en ballon avec la gang de gars qui boivent de la bière, qui comprennent rien. Mais la face de sa femme, quand t'as voit qu'au party pour les tout-petits, t'as des danseuses qui sortent d'un gâteau, elle n'est pas de bonne humeur.
Oui, je me rappelle très bien de cet épisode-là. Puis c'est le fun, tu sais, il y a une espèce de d'ordre chronologique aussi. Tu dis qu'à un moment donné, ben, y a peut-être eu des épisodes de trop. On a voulu, rajeunir un peu.
Ouais, rajeunir, aller partout. Les derniers épisodes, il allait dans le futur.
Oui.
À un moment donné, Fred, il prenait une pilule puis il devenait un gorille. Il y avait des pouvoirs magiques. Tu avais le grand gazou, les gens s'en souviennent peut-être.
Oui, c'est... On sait pas d'où il arrivait.
C'est extraterrestre, qui a pas rapport. On est... Fait que là, je suis... là, ils ont perdu un peu le fil. Ils ont perdu les adultes. Alors, le deuxième degré a disparu. C'est devenu une licence pour enfants. Les gens s'en souviennent pas, mais il y a une autre série avec les jeunes pierres à feu, c'est-à-dire Agathe et Boum Boum devenus adultes. Et ce que je me... Moi, je me souviens plus de ça, que Agathe et Boum Boum tombent amoureux et se marient.
Ah oui.
Mais c'est quasiment wash, là, dans le sens où tu as été élevé avec lui. Là, c'est ton... Ça devrait être comme ton frère, c'est ton voisin de longue date. Je ne sais pas pourquoi tu couches avec. En tout cas,
c'est un autre dossier.
On ne le saura jamais. Je suis dans le gros jugement. Tu sais.
Oui, mais c'est des personnages qui ont marqué notre quotidien. On ne veut pas les voir vieillir, on ne veut pas les voir changer. On les aime comme ça.
Puis il y a les Jetsons, hein, par la suite, qui sont arrivés, qui ont été beaucoup comparés. Puis je pense que les gens étaient un peu déçus. Donc,
c'est arrivé en même temps, à peu près. Nous, on l'a eu plus tard, mais les Jetsons, c'est Hanna-Barbera. D'ailleurs, Hanna-Barbera, c'est pas une madame. Là. Moi, quand j'étais petit, je voyais un dessin animé d'Hanna-Barbera. Je disais, elle est bonne, elle roule, elle. Mais non, c'est William Hanna et Joseph Barbera, et non pas une madame qui s'appelait Hanna. Bien, eux, ce qui... Écoute, ils ont produit plus de 4000 dessins animés à partir de 1957, des anciens animateurs de chez MGM qui avaient travaillé sur Tom et Jerry à l'époque. Ils ont créé leur propre studio destiné à la télé. On leur doit Scooby-Doo. On leur doit un paquet de séries pour les plus vieux qui se souviennent de la fourmi atomique, de Wally, Gator, de Grand Galop et Petit Trot. Il y en avait plein, plein, plein. Et puis, voilà, ils ont été des maîtres du dessin animé fabriqué presque en saucisse. Parce que souviens-toi que dans les pierres à feu, quand tu courais dans la cuisine, t'as 22 fois le même frigo.
Ben oui.
Mais ça faisait partie... pas passé sur grand écran dans un film de Walt Disney, comprends-tu? C'est pas, même, c'est pas le même niveau, là.
Non,
on est dans l'efficacité. Pour la TV, tu manges ton grilled cheese, tu poses pas la question. Alors, c'est de l'animation télé. Dans les années 60, c'est assez audacieux de dire, ben nous, on va te produire ça en... avec des immenses studios, avec peut-être 500 personnes qui dessinaient l'un à côté. Il n'y a pas d'ordi, là. Il n'y a pas d'ordi. Tout ça est fait sur celluloïde à la gouache. Donc, il y avait des il y avait des coloristes à la main avec pinceau et de la gouache de toutes les couleurs. Fait que ça se passait, c'était sur un cellulo, un plastique. Il y avait 24 images secondes. Puis chacun des coloristes devait à la main colorer. Quelqu'un faisait le orange. Quelqu'un faisait
quel travail!
Oui, c'est un travail de moine.
Ben oui.
C'est fascinant quand on y pense, à quelque part. Parce que maintenant, tout est... On est loin de l'IA, là. T'es d'accord?
Absolument. Ah non, maintenant, c'est tout informatisé, puis c'est beaucoup plus simple. Mais toi?
Ben moi, j'aime sentir l'effort. Je trouve ça cool d'y penser, ça. À ces 300-400 personnes dans un studio avec des petits pinceaux, je fais comme aïe aïe.
Il y en a pas.
C'est respect, là.
Aujourd'hui, absolument. Et puis, on pense aussi aux produits dérivés, hein, les vitamines.
Ben oui, les céréales.
Les vitamines, les céréales. Il y avait même un gros dino à l'époque d'Expo Québec, dans les années 95-96, peut-être. Un gros dino gonflé, là, sur le toit du complexe G. Mon Dieu, c'était vraiment.
Dans les centres d'achat, il y avait souvent le char des pierres à feu, tu fais 25 cents.
Oui.
Il bouge un peu, là. Ben c'est bon. Moi, j'en ai plus de 200 bebelles des pierres à feu. Moi, je m'amuse. Moi, quand je tombe là-dessus, puis ce qui est le fun, c'est que ça coûte pas cher à collectionner, parce que le monde ne se bat pas comme pour Star Wars. Fait qu'il n'y a pas de mise aux enchères. Il n'y a pas de build-up sur la valeur d'une affaire. À chaque fois que je tombe sur quelque chose dans un marché au plus, la madame a dit, Non, parce qu'on vend dessus, à 100
pas d'argent. Oui, c'est ça. Fait que c'est parfait, ça coûte pas cher.
Fait que juste, je m'amuse. Ben, j'en ai chez nous, ben de la bébelle.
J'imagine que tu dessines encore, toi, à la main, au crayon, sur certains. Ouais, c'est ça.
Gargouille continue, mais d'autres séries, Zombie Band. Je fais des livres documentaires, j'enseigne la BD en milieu scolaire. J'ai des livres en Europe, ailleurs aussi. Je fais beaucoup de salons aussi, le salon du livre, tout le temps, une vingtaine par année. Donc oui, je dessine encore à la main parce que ça me lie à l'état d'esprit que j'avais quand j'étais petit.
Ouais.
Puis pour moi, c'est ça. Je l'ai essayé avec la tablette graphique, puis j'étais comme rendu un monsieur. Fait que j'aime mieux. En fait, tu vas me dire, c'est l'inverse. Il y en a qui vont dire, au contraire, t'as plus l'air d'un monsieur en travaillant comme avant.
Ouais.
Oui, mais quand je travaille comme avant, ça me relie à l'enfant que j'étais. Ben moi, je le vois à l'envers, tu comprends-tu? Fait qu'en voulant être hyper modèle, mais je fais pas ma couleur, moi. J'ai toujours des coloristes, une équipe, ne t'en fais pas, j'ai mon petit studio. Je travaille avec des gens d'expérience et hyper compétents, très talentueux pour peaufiner ma BD. Mais la base, ce qu'on appelle le découpage, les croquis de base, tout ça, le crayonné, donc la mise au propre par la suite est à l'ordi. Mais tout le dessin au crayon à mine de base, c'est crayon. Moi, j'aime ça. ma page est froissée, il y a de la moutarde dessus, je la traîne, je la plie, je suis pas propre non plus, je vous le dis, pas propre. Quand je travaille... Mais... après, tout est scanné, nettoyé, si on est d'accord, ça apparaît pas. Il n'y a pas de tâches de moutarde dans mes livres. Il y en a sur mes planches originales, par exemple, parce que je me promène partout, je travaille dans les aéroports beaucoup. J'aime beaucoup travailler dans des lieux publics, étrangement. Puis, c'est le fun, ça crée la conversation, tu as toujours un serveur ou une serveuse à quelque part qui fait qu'est-ce que
vous dessinez,
Quand tu fais de la BD, si quelqu'un me dit vous faites quoi, un chauffeur de taxi me dit vous faites quoi dans la vie?
Conduit.
Je suis chauffeur pour une compagnie d'assurance. Des fois, j'ai essayé, tu sais, l'air un peu dessinateur de bande dessinée. Ah ouais? Puis c'est pas tant que mon métier vaut plus qu'un autre, on est d'accord, c'est que ça sort du lot.
Parce c'est rare.
C'est rare, c'est original. Les gens font hein? Et ça touche au cœur des enfants qu'on était. Quand quelqu'un dit je suis dessinateur de BD, je fais des cartoons dans la vie, je gagne ma vie comme ça. Il y a toujours une réaction. Parle-moi de ta job.
Comment les jeunes aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont sous la main, les tablettes, les téléphones, l'intelligence artificielle, les ordinateurs, c'est quoi leur rapport avec la BD encore aujourd'hui? Moi, je me rappelle, on allait à la bibliothèque de l'école primaire, puis on prenait des Boulet Bill, par exemple, ou des Gargouilles, ou des Tintins, puis on lisait ça, on adorait ça. Là.
Il y a des gros défis, c'est-à-dire que le livre n'a plus le monopole comme support de lecture, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des gros défis, évidemment. Au niveau du jeunesse, peut-être aussi parce que l'école qui les préserve aux primaires, on est encore dans le livre papier beaucoup. Puis une BD, ils ont même essayé. Hein. Les grands classiques des BD belges, par exemple, ils ont essayé en numérique. Ça marche pas. Dans le fond, tu veux t'asseoir sur un coussin avec ton Spirou. Tu sais, il y a un code à 7-8 ans, rendu à 13 ans, c'est une autre game. Là, on se bat contre les YouTubers de ce monde. Et les...
Non, c'est différent. Tabarouette.
On
n'est pas dans un moment... facile, mais il faut y croire, il faut... Puis moi, chacun des créateurs, de mes collègues créateurs, chacun à leur manière, essaie de mettre l'eau au moulin, la goutte d'eau dans l'océan, la pierre au rein, appelle ça comme tu veux, mais je veux dire, on essaie de faire ce qu'on peut pour... Puis de temps en temps, il y a comme une lumière qui se... Tu vois, là, il y a une prise de... C'est drôle, là, depuis 2 ou 3 ans, il y a un retour, la vente de livres réaugmente. C'est comme si on avait dit à un moment donné, attends un peu, on va se laquer, là. Tout ne peut pas être sur notre cellulaire. On peut aussi des fois c'est que le cerveau, quand on prend une BD papier, le cerveau se repose, il va ailleurs, il est complètement dans une autre
situation. Ah, moi, je suis incapable. T'sais. J'ai besoin de mon papier, j'ai besoin de ma feuille, puis même avec les enfants aussi, c'est des moments qui repasseront jamais. T'sais, prendre ce moment-là avant le dodo, de lire un livre ou une histoire en BD,
Là, il y a une prise de conscience parce que c'est une discussion qu'on a socialement qu'on n'avait pas il y a 3 ans. Mm-hmm. On dirait que là, on commence, on le voit. Ma fille qui est en secondaire 5, c'est la première fois en 5 ans au secondaire qu'elle se fait des amis. Pourquoi? Parce que c'est la première année où ils n'ont pas droit à le sel. Fait qu'ils se parlent.
Ouais, c'est capoté.
En parlant, il faut qu'ils s'occupent. Fait qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au Uno. Ils font de l'impro. Ma fille fait de la guitare dans un petit band improvisé. Mais si ça avait pas été, si ça avait été du fait que tout le monde avait son sel, ben depuis 4 ans, elle n'avait pas d'amis. Tu t'en fais un ou deux, puis encore là, il faut que sur l'algorithme, l'autre te le propose. T'sais. Fait qu'il y a vraiment une prise de... il y a comme une... Puis ma fille de 16 ans me dit, papa, il faut pas que ça revienne les cellulaires parce que ça a été ma plus belle année. Parce que là, puis si se parler, ça veut dire s'obstiner, débattre, à la limite s'engueuler, mais on est dans le vrai. Je t'engueule, je te dis un mot qui te blesse, je le vois dans tes yeux. Tandis que sur mon écran, avec un algorithme, un nickname, puis quelqu'un qui ne me connaît pas, tout ça devient, tout au niveau de l'empathie.
Une fausse connexion.
C'est une fausse connexion. On n'a jamais été aussi seul que depuis...
Qu'on est tous connectés.
Les outils pour communiquer, c'est assez niaiseux quand tu y penses.
C'est vrai.
Fait que voilà. Fait que c'est ça qui me manque des pierres à feu, c'est le référent social commun.
Oui, qui nous représentait.
On peut vibrer à la même chose, oui, mais là, on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. Et je ne dirais jamais que c'était mieux dans mon temps, parce qu'il y avait des aberrations aussi. De toute façon, c'est encore dans mon temps.
C'était autre chose. Ça fait partie de notre histoire, notre nostalgie, nos souvenirs.
Mais moi, j'aime bien ça. Je me dis, il y a une trace maintenant. On peut. C'est le fun. Le devoir de mémoire. C'est le fun de l'avoir. Moi, j'ai eu bien du plaisir à écrire ce livre.
C'est un super beau livre à feuilleter. C'est le fun. Il y a un paquet d'histoires et des entrevues, comme tu le disais, avec Bertha.
Vous l'avez fait, je crois, avec Tintin, Astérix et d'autres.
J'ai fait Tintin, Astérix, Walt Disney. J'ai fait aussi le Québec des années 70, 80, 90. C'est un livre sur la ronde aussi, là, qui rejoint peut-être plus les gens du Grand Montréal. Mais oui. J'aime bien. Puis j'en ai d'autres aussi. On va se reparler. J'ai d'autres belles surprises nostalgiques. Qui s'en viennent bientôt. Je ne vous dis pas quoi, mais... On va se
On se tient au courant. On se tient au courant, sûrement.
Oui.
Donc, ça sort aujourd'hui. C'est le lancement, ce soir. Donc, je te laisse aller. Puis,
On a trouvé une vieille télé des années 80. Puis on a branché le DVD avec ça. En tout cas, on s'est arrangé. Fait que les gens sont au rendez-vous, puis c'est drôle.
C'est super.
Une télé
avec les vieux. On avait une TV noir et blanc. Moi, je regardais des pierres à feu en noir et blanc. On avait une TV noir et blanc qui était sur le frigo.
Ah oui.
Fait que moi, je mangeais mon grilled cheese, ma soupe aux tomates, Elmer, en canne, en regardant les pierres à feu. Puis après, quand c'était fini, c'était les démons du midi à l'autre poste. Puis là, il fallait que je retourne à l'école. Ouais. Mais c'était les mêmes jokes de belle-mère.
C'est la même affaire. Gilles La Tulipe faisait les mêmes jokes.
Ben oui, on est toujours dans ces jokes de... Voilà, d'une autre époque.
Donc, c'est disponible dans toutes les bonnes librairies. Ça s'appelle...
Oui, c'est partout en librairie depuis ce matin. Puis les gens réagissent bien. On est super contents. Ouais. C'est un livre d'été, tu sais, sur le bord du... Tu sais, je sais pas, au chalet.
Ah oui.
Pourquoi pas?
C'est super bien imagé. Il y a des souvenirs en images des pierres à feu. Pour vrai, bravo. Puis bon lancement. Puis merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler cet après-midi.
C'est tellement cool de vous parler. Merci à vous autres de m'avoir invité. Puis on se recroise. On se repart.
Avec plaisir.
All right. Bonne fin d'été.
Bye-bye. Tristan Demers, auteur, dessinateur, BDiste. Ça s'appelle Un dîner avec les pierres à feu. C'est vrai qu'il est beau le livre, Mel. Hein?
Oui, fun, vraiment, vraiment. Je vais aller me le procurer, c'est sûr.
OK, on a un petit peu défoncé, mais c'était super intéressant.
Super grave,
on vient au retour de cette pause.
Le retour de Radio X.
Téléphone, texto, 418-670-9098.
Radio X.